on a commencé par parler du fait que la Bible nous dit que le monde spirituel existe, qu'il y a un monde invisible, un monde qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, et c'est un enseignement qui est clair dans la Bible, le monde invisible existe. On a dit que ce monde invisible est un monde séparé entre un monde invisible bon et un monde invisible mauvais. Et on a parlé du monde invisible bon dans lequel on trouve les anges de Dieu qui le célèbrent, qui le louent et qui sont aussi à notre service. Donc on a passé beaucoup de temps à parler des anges. Et alors qu'on a pu parler des anges et qu'on a pu préciser, c'est fort important, on a pu préciser que le fait que Dieu nous accompagne avec des anges, que Dieu ait accordé ce ministère des anges aux croyants, c'est une bénédiction, ça fait partie de notre salut. Avec notre salut, avec notre exaltation avec Jésus, nous avons aussi la grâce d'être accompagnés par des anges de Dieu en tout temps, en tout lieu, des anges qui nous secourent, des anges qui nous aident, même si on ne les voit pas, mais c'est vraiment une grâce que Dieu nous a fait, et donc c'est important que nous puissions nous rendre compte. L'accompagnement et le ministère des anges est un élément du pack cadeau reçu dans le salut en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ, notre vie est tenue dans la main de Dieu, notre vie est conduite par le Saint-Esprit, et notre vie est accompagnée par les anges du Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous régir, qui doit nous faire plaisir, c'est de pouvoir célébrer Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'être accompagnés par les anges de Dieu. Alors, comme vous l'avez compris, maintenant qu'on a parlé du monde invisible bon, nous allons parler du monde invisible mauvais. Alors, j'ai très longtemps hésité à aborder ça. C'est très compliqué parce que nous sommes dans un culte public. Et que, voilà, qui dit culte public dit que, voilà, n'importe qui peut entrer, s'asseoir. Et c'est sûr que c'est pas un thème qui est rassurant pour un non-croyant qui rentrerait dans une église. Ça fait un peu peur. Et même les croyants, bizarrement, parfois on est mal à l'aise avec ce sujet-là. Alors, j'ai hésité, mais en même temps, ça fait partie de l'enseignement, donc on peut pas non plus le retirer. Ça, c'est un. Deux, je ne vois pas comment on peut faire d'autre, parce que si je le fais le mardi, on sera quatre. Et puis trois, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement présent dans la Bible. Et en particulier, ce qui m'a fait réfléchir, c'est de me rendre compte que même les évangiles sont remplis de la question des démons et de la question de Satan. Si demain matin vous devez donner une Bible à un non-croyant, vous allez lui dire quoi ? Et qui doit la lire, vous allez lui dire, ben, commence par les évangiles. Eh bien, dans les évangiles, on ne parle que de ça. Et donc, je vais faire l'exercice quelques secondes pour vous. Au hasard, je ne me suis pas préparé à le faire, mais c'est pour vous donner un exemple et pour justifier l'intérêt de le faire. Je prends ici l'évangile de Marc, dans cette Bible. Chapitre 1, on nous parle du baptême et de la tentation de Jésus. Dès le verset 12, on nous parle du fait que Jésus est tenté par Satan. Chapitre 2, on n'a pas grand-chose. Chapitre 3, à partir du verset 20, on nous parle du fait qu'on nous demande si Jésus est lié à Satan ou pas. Chapitre 4, on a la parabole du bon semeur. Et ensuite, chapitre 5, directement, on a Jésus qui guérit un possédé. C'est le fameux Légion dont on parle beaucoup. Chapitre 6, on n'a rien du tout. Chapitre 7, c'est aussi plus calme, mais chapitre 7 déjà, on nous parle de Jésus qui guérit un sourd et muet. Chapitre 8, on nous parle de Jésus qui guérit un aveugle, mais vous savez que dans certains cas, il liait les délivrances qu'il faisait aux guérisons qu'il faisait. Chapitre 9, Jésus est le père d'un enfant possédé. Bon, je m'arrête là, mais vous avez vu que déjà, rien qu'on est, on est qu'au chapitre 9, et j'ai déjà cité 4 ou 5 occurrences qui nous parlent des démons, qui nous parlent de Satan. Et donc, je pense que dès lors que les évangiles en parlent énormément, ça se justifie qu'on en parle, même dans un culte public, puisque un non-croyant pourrait aussi être confronté à cette question. Voilà, ça c'était un peu l'introduction pour expliquer à quel point c'est un peu délicat. En fait, c'est pas tant que ça, mais quand même. Alors, oui, je ne sais pas, il donne plus là. Une chose aussi que je voulais dire avant de commencer, c'est de dire s'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous choque, qui vous voilà, si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à venir me voir. Je préfère qu'on en parle plutôt que tout le monde reparte avec des points d'interrogation dans tous les sens. Voilà. Alors, j'essaye une dernière fois et ensuite. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, les démons, on peut encore aller à la suivante. Pourquoi en parler ? On peut continuer. Alors, comme je l'ai dit, la Bible parle énormément et abondamment du monde spirituel. Les évangiles eux-mêmes nous confondent sans cesse à la question des démons. Très régulièrement, on nous parle de Satan, on nous parle des démons. Et pourquoi donc refuser d'en parler ? Si les évangiles même en parlent, pourquoi refuser d'en parler ? Alors, le chrétien doit non seulement être informé sur ce que la Bible dit, il doit être instruit sur ce que la Bible dit, mais le chrétien doit aussi être capable d'être équipé pour être en mesure de vivre en connaissance de cause. Nous devons savoir ce que la Bible dit, mais nous devons aussi être capables de réagir dans notre vie par rapport aux différentes choses qui peuvent se présenter à nous. Et nous devons aussi être capables de réagir par rapport aux effets concrets que peuvent avoir des réalités spirituelles telles que celles-là. L'importance d'équiper les croyants. C'est une introduction pour dire que faut quand même se rendre compte que l'Église, c'est quand même un lieu aussi où on vient, pas seulement pour apprendre des choses, mais aussi pour s'équiper. C'est-à-dire pour avoir les outils nécessaires au cas où on était confronté à une situation qui appelle un certain nombre de choses. C'est vrai que quand on ne sait rien, ben on tombe des nues, mais quand on est instruit, on est équipé et on peut être capable de réagir. L'enseignement sur ce sujet-là a aussi toute son importance parce que Dieu veut que nous puissions voir le monde comme il le voit. Et dans la vision de Dieu, quand Dieu voit le monde ou dans la réalité du monde, ces réalités sont là. Les réalités du monde spirituel existent, que ce soit le monde spirituel bon ou le monde spirituel mauvais. Ce sont des choses qui sont dans le monde et c'est important que nous puissions voir le monde comme la Bible le présente. Et pas voir le monde comme la culture nous le présente ou comme nos habitudes nous le présentent. Et donc c'est important que le chrétien soit outillé par rapport à ça. Il n'est pas rare que lorsqu'on parle d'esprit impur ou de démon, en général les chrétiens sont perdus et disent « Oulala, il faut qu'on téléphone à un spécialiste, vous connaissez pas un spécialiste en France qui pourrait pas nous aider ?» parce qu'on est tellement perdu qu'en fait on ne sait pas réagir. Or, la Bible nous montre que c'est, pour un chrétien, c'est un sujet classique et c'est quelque chose par rapport auquel nous devons être en mesure de réagir. Le chrétien doit être en mesure de combattre spirituellement, d'identifier les œuvres de ténèbres, d'agir en demeurant dans la lumière, et il ne peut le faire que sur base de la connaissance qu'il a de la victoire du Christ à la croix sur les forces des ténèbres. Pourquoi est-ce qu'on peut en parler ? Parce que ces forces sont vaincues et que Jésus a accompli l'œuvre parfaite et que nous parlons d'ennemis vaincus et nous parlons dans la position que Christ nous a donnée dans les lieux élevés. Et donc, sur base de cette connaissance qu'on a, on doit pouvoir en parler sans ne parler que de ça. Ceux qui nous visitent, on ne parle pas de ça tous les dimanches. Mais en même temps, on peut le faire parce qu'on sait qu'on vit dans la victoire et qu'en même temps, Dieu nous appelle à être instruits sur toutes les réalités de sa parole. Alors, qu'est-ce qu'un démon ? Les démons, ce sont des esprits au service du diable. Ils accomplissent des missions pour lui. Le diable est appelé Belzébul, c'est-à-dire le chef des démons. Il est présenté comme étant celui qui règne sur les démons, celui qui dirige les démons. Et donc un démon, c'est une entité spirituelle qui est au service du diable, au service de ses missions, au service de son programme. De la même façon que les anges sont au service de Dieu, qu'ils accomplissent sa volonté, qu'ils réalisent le plan de Dieu, les démons sont au service du diable. Ils sont appelés les serviteurs du diable. Dans Matthieu 25, 41, il est dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez que le parallèle est là. On pourrait dire, entre guillemets, les démons, ce sont les anges du diable, ce sont les serviteurs du diable. Alors un démon, c'est un esprit déchu qui est au service du diable ils soutiennent leur chef, ils accompagnent leur chef dans le combat contre les anges, on le verra, contre le royaume de Dieu, contre le plan de Dieu, contre le peuple de Dieu. On pourrait dire qu'ils sont les agents, ils sont ses agents, ils sont ses serviteurs spécialisés qui accomplissent sa volonté. Il y a différentes nominations qui existent pour parler des démons. Dans Matthieu 10:1, on en parle comme des esprits impurs. Dans d'autres textes, comme Éphésiens 6:11, on parle des esprits du mal, ou aussi on parle des esprits méchants. Donc les esprits du mal ou les esprits méchants. Ce sont des nominations qu'on utilise pour parler d'eux. Alors, ce sont des esprits méchants, et la Bible nous le montre, encore une fois, regardez Matthieu chapitre 12, on est au début des évangiles, vous donnez une Bible à un nouveau converti ou à un non-croyant, Matthieu 12, il tombe sur une explication, voilà. Donc, c'est quand même extrêmement présent dans la Bible. Et donc, dans Matthieu 12, il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et puis quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison et s'y établissent. Vous voyez que ce sont des esprits qui veulent le mal, comme le diable, ce sont des esprits qui sont tournés vers le fait de faire du mal aux hommes, de détruire la vie des hommes, de mettre en difficulté la vie des hommes. Les démons sont des anges déchus. Quand on dit déchus, c'est-à-dire qu'ils ont perdu une position, ils ont perdu un avantage, ils ont été privés de l'état de grâce dans lequel ils étaient. Ce sont des anges qui ont été à la base créés par Dieu comme anges, mais à cause de leur faute, ils ont perdu cette position et donc ils sont maintenant des anges déchus de la position dans laquelle ils étaient. Ils sont privés de l'état de grâce. Et maintenant qu'ils le sont, eh bien, ils se vouent à faire le mal aux hommes. Alors, la cause de cette déchéance, la Bible nous montre que ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu à la suite de Satan. C'est-à-dire que quand Satan, vous le savez, s'est révolté contre Dieu, il a embarqué avec lui des anges qui l'ont accompagné dans cette chute. Donc, vous aviez tous les anges créés par Dieu, des anges qui sont restés dans leur position et puis des anges qui ont délibérément décidé de se rebeller contre Dieu et les démons sont ces anges qui sont déchus à cause de leur rébellion contre Dieu. Ils ont été créés parfaits mais ils n'ont pas gardé leur position, ils ont suivi Satan dans sa révolte. La Bible nous montre aussi que ce sont des anges qui ont péché, 2 Pierre 2 verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc ce sont des anges qui ont péché, alors on peut considérer que leur péché justement c'est de s'être révolté contre Dieu, d'avoir refusé justement de rendre gloire à Dieu et de rester dans cette position de soumission vis-à-vis de lui. Et donc c'est pour ça aussi qu'on en parle comme dans Jude 1 verset 6, comme d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils n'ont pas gardé leur dignité. La révolte. Donc il est clairement montré dans la Bible que Dieu a tout créé parfaitement, et qu'un ange, Satan, s'est révolté contre Dieu, qu'il a entraîné ses anges avec lui, et qu'il a cherché à inciter l'humain dans le péché. Donc Satan est le grand chef de cette révolte. Mais il ne s'est pas révolté tout seul, des anges aussi l'ont suivi dans cette révolte. C'est donc une révolte délibérée contre Dieu, un refus de lui rendre gloire, et un refus de respecter la position de créature. Il a voulu se faire l'égal de Dieu, il a refusé d'accepter sa position de créature, il s'est révolté, il s'est mis en opposition par rapport à Dieu, et c'est comme ça qu'il a été justement déchu avec ses anges. Désir de surpasser Dieu, désir d'égalité avec Dieu. On peut dire aussi, et ça c'est quand même très intéressant, c'est qu'en fait, cette révolte du diable, c'est un peu la volonté d'autonomie. Je veux pas être ta créature. Je ne veux pas être cette créature qui doit être soumise. Je veux m'adorer moi-même. Je veux avoir mon autonomie et pouvoir vivre seul. Et vous allez voir que dans Genèse chapitre 3, c'est ça le péché originel. C'est le refus de rester dans la position d'enfant, de créature de Dieu, en soumission par rapport. Donc il a refusé de rendre gloire à Dieu, de respecter l'autorité de Dieu, et il veut entraîner les hommes à se révolter contre Dieu. Donc ça, c'est, faut vraiment comprendre, hein, que c'est vraiment le but du monde des ténèbres, c'est de pousser l'homme à se révolter contre Dieu, à rejeter Dieu et à vivre dans l'autonomie par rapport à Dieu. Donc, vous connaissez évidemment ces textes qui nous parlent de la chute de Satan, je ne vais pas en parler longtemps, mais juste pour montrer que il nous est dit qu'en fait, l'iniquité a été trouvée chez lui, qu'il a péché, et alors ça c'est donc ça est adressé au prince de Tyr, mais qui est en fait un prototype ou une non c'est pas un prototype j'ai oublié le mot qu'on utilise mais une image pour parler aussi de Satan. Et donc verset 17, il dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Donc c'est un ange qui a été créé tellement beau par Dieu. Il était tellement, c'est un ange de lumière, c'est peut-être un des plus beaux anges que Dieu a fait, plus puissant que Dieu a fait, et son cœur s'est élevé à cause de sa propre beauté. Il a commencé à admirer sa propre beauté, et son cœur s'est élevé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péché d'orgueil contre Dieu. Dans l'autre texte qu'on connaît aussi, qui est adressé cette fois au roi de Babylone, il nous est dit, qu'il a dit en son cœur, écoutez bien, c'est ça l'orgueil, hein, l'orgueil de celui qui ne veut pas accepter l'autorité de Dieu. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est le péché de Satan. Je serai semblable au Très-Haut. Je ne veux pas accepter l'autorité de Dieu sur moi. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, et donc il y a un jugement pour cette révolte, pour cette insoumission, il y a un jugement. Donc on voit que les composants de cette révolte de Satan, c'est un péché d'orgueil, dû à l'admiration de sa propre beauté. On voit que l'expression dit « ton cœur s'est élevé », Il a une révolte du non-respect de sa position et de la volonté de l'égalité avec Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Vous pouvez faire un parallèle avec le texte de Philippiens qui parle de Jésus qui n'a pas vu comme une proie arrachée son égalité avec Dieu. Donc Jésus se présente en tout à fait autre chose. Il est celui qui accepte l'autorité du Père, celui qui accepte que Dieu l'envoie, qui accepte de perdre sa gloire pour un temps. Jésus, c'est tout à fait le contraire. C'est la volonté de se soumettre à Dieu, d'accepter l'autorité de Dieu sur lui. Alors, les actions des démons, je ne vais pas aller... l'idée n'est pas de tout détailler, mais que vous puissiez quand même avoir une idée. Alors, si on en parle, soyons clairs, si on en parle, c'est parce que la conviction biblique que nous avons est qu'il y en a encore aujourd'hui. D'accord ? Donc, nous ne croyons pas que ce sont des choses du passé à enterrer et que maintenant, ben, il n'y a plus tout ça. Nous n'y croyons pas. Vous savez qu'il y a une citation, et c'est pour ça que j'espère que ça vous fera réfléchir, qui dit que la meilleure arme de Satan, de l'ennemi, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est-à-dire qu'au plus nous pensons que ça n'existe pas, au plus nous croyons que ça n'existe pas, au plus il fait ce qu'il veut. Et de toute façon, tu ne le sauras même pas quand il est en train d'agir, puisque Et donc c'est important qu'on sache, parce que ça existe dans le monde. Alors, moi, je donne cet enseignement, ça ne veut pas dire que demain matin, je vais passer ma vie, ma journée... Non, je vais vivre ma journée normalement. Ça ne doit pas devenir une obsession. Mais en même temps, un chrétien qui ne sait pas ça, c'est un chrétien qui est quand même vulnérable. Et je prends l'exemple d'un pasteur, je vous avais donné cet exemple, il avait donné cet exemple que je trouvais exceptionnel. C'est un peu comme si vous êtes à Charleroi, dans la ville de Charleroi, on vous dit qu'il y a des snipers qui sont là dans la rue en train de vouloir tirer, et vous êtes là au milieu de tout comme si de rien n'était. C'est ça la vulnérabilité. Si vous savez qu'il y a quelque chose, c'est important de le savoir et d'être au courant, sans que ça devienne une obsession, sans que ça remplisse nos vies, mais on doit savoir Et on doit être capable aussi de vivre par rapport à ça. Première action des démons, c'est avoir de l'emprise sur les humains et les tourmenter. Matthieu 15, 22, il est dit « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » L'ennemi ne nous veut pas du bien. Ce qu'il veut, c'est détruire la vie des humains, c'est de détruire leur espérance, c'est de détruire leur salut, de détruire leur paix, de détruire leur joie, et c'est de les tourmenter et de les mettre dans des tourments. On voit là qu'il a une emprise sur cette personne, qu'il peut avoir une emprise, il peut influencer, il peut tourmenter, et cela est vrai pour les humains, mais aussi pour les animaux, entre parenthèses. Alors, tourmenter. Vous allez dire aujourd'hui, mais alors, finalement, tourmenter, à quoi ça pourrait ressembler? On peut voir des gens tourmentés par l'angoisse, tourmentés par la peur, tourmentés par la culpabilité, tourmenté par des atmosphères spirituelles néfastes, tourmenté par l'accentuation d'une colère en soi ou dans les autres. Parfois, des esprits impurs peuvent agir de façon sournoise, tourmenter des humains. Et vous avez peut-être déjà rencontré des gens dont vous voyez qu'il y a quelque chose dans leur vie où ils semblent tourmentés par quelque chose. Il semble qu'il n'y a pas de paix en eux, il semble qu'il y a quelque chose intérieurement ou extérieurement qui les tourmente, qui leur fait du mal. Et par exemple, certains pensent que des démons peuvent être impliqués, je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais des démons peuvent être impliqués dans certains passages à l'acte fou que des gens peuvent avoir. Certains pensent que des démons peuvent pousser des gens au suicide, peuvent pousser des gens à se faire du mal à eux-mêmes, à se mutiler, à se mettre en difficulté, Donc, ils vont tourmenter les humains dans ce qu'ils peuvent faire pour leur faire du mal, pour les plonger dans l'angoisse, dans la peur, dans la culpabilité. Ils vont mettre du poids sur les épaules de quelqu'un. Ils peuvent aussi provoquer de la colère. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que si on actualise un peu ça, parce qu'on ne va pas toujours voir quelqu'un qui tremble, qui a des réactions, mais parfois ça peut être simplement un démon qui agit pour tourmenter quelqu'un. Je pense aussi parfois à des plus jeunes qui en fait sont dans une sorte de peur, d'angoisse, de détresse comme ça, qui n'est pas juste une détresse humaine de dire « je ne suis pas trop bien pour l'instant », mais qui se renferment sur eux-mêmes, qui vont écouter des musiques très tristes, très dévalorisantes, très déprimantes, jusqu'à parfois des choses très graves. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée de types d'actions qui peuvent être dans le tourment. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais ça peut être ce genre de choses, des esprits qui conduisent à la tristesse, qui conduisent à la colère, ce genre de choses. Alors, vous connaissez aussi cette grande discussion, ce grand point qui est la question de la possession ou des influences démoniaques. Alors, pour faire simple, il y a deux distinctions qu'on peut faire. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque. Et deuxièmement, ce qu'on appelle l'influence démoniaque. Alors, en fait, la différence, c'est que la possession démoniaque, c'est une action intérieure et durable d'un démon. Par exemple, Légion, dont vous lirez Marc 5 chez vous, c'est le tout début. Légion, c'est vraiment quelqu'un qui est durablement habité par un ou des démons. Okay ? Donc là, c'est durable, la personne est habitée. Alors, le terme possession démoniaque a fait énormément de discussions parmi les théologiens et les pasteurs, parce que certains estiment que ce terme n'est pas une bonne traduction du mot grec qui est utilisé, démonisomai. Je pense que c'est assez simple. Il faut comprendre que ici, quand on dit possession, ça renvoie à l'idée d'une emprise. C'est-à-dire que ça renvoie à l'idée que quelqu'un, que le démon a une emprise en une personne. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est complètement contrôlée par les démons. Dans Marc 5, c'est le cas. Légion, lui, il est complètement contrôlé. Lui, il est habité, rempli et toute sa personne est remplie par ça, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui a un autre degré, qui a juste un démon ou l'autre qui l'habite, mais qui ne contrôle pas toute sa personnalité. Et donc la personne, vous avez des moments où elle est tout à fait normale, et tant qu'elle n'est pas confrontée, par exemple, au nom de Jésus, là, vous ne voyez pas que la personne a un problème. Vous voyez un peu l'idée. Donc c'est des questions de degrés. Il peut y avoir des degrés très simples où la personne a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose, et alors il peut y avoir des degrés extrêmes, comme des personnes qui sont complètement habitées par des démons. Alors, je vous parle en disant, il est évident que tout cela n'a rien à voir avec la maladie psychiatrique. La maladie psychiatrique, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais on peut aussi imaginer que certains malades psychiatriques sont aussi habités par des démons, sauf que voilà, le psychiatre, il va pas identifier ça. Mais donc, vous voyez un peu l'idée. Alors, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle une influence démoniaque, et ça, c'est important de savoir que ça existe, parce que là, c'est une action extérieure et une action séquencée du démon. Ça veut dire que le démon n'habite pas la personne, mais il vient de temps à autre la tourmenter. Donc ça veut dire que la personne, elle est tout à fait normale, par moment, et puis à un moment donné, vous avez l'impression que la personne devient complètement folle. Et donc, voilà une chose qui peut être dite. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, j'ai rencontré une personne, je la connaissais, mais c'est une personne qui a des comportements très, très interrogants. C'est une personne qui, concrètement, détruit toutes les relations dans lesquelles elle est. Je ne parle pas de relations amoureuses, je parle de relations humaines. C'est une personne qui semble animée constamment par une envie de mettre la zizanie là où elle est, de construire des manigances, de mettre les gens en opposition les uns avec les autres, de mettre les personnes dans... C'est vraiment... Peut-être que vous avez connaissez des gens comme ça. Je ne vous parle pas juste de quelqu'un qui est un peu spécial. Hein. Je vous parle vraiment de quelqu'un qui semble comme animé par un esprit de dispute, un esprit de mettre la zizanie, de désaccord et de... Voilà. Et cette personne a pu dire clairement qu'elle sait qu'elle est habitée par un démon. Donc la personne, elle est normale. Hein. Elle est tout à fait normale. Vous pouvez prendre la voiture avec elle, aller manger des croissants, vous n'allez pas. Mais dans son comportement, il y a quelque chose qui n'est pas simplement humain, mais qui est vraiment une incitation à la haine qui est en elle. Et quand vous voyez la vie de la personne, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de détruire sa vie. Donc c'est des choses aussi qui existent. Et comme je dis, c'est beaucoup plus sournois qu'on peut le penser. C'est pas juste une personne qui se met à crier, ça tout le monde va dire ok on a vu, mais il y a aussi ce genre de choses. Alors il y a aussi ce qu'on appelle les oppressions démoniaques. Alors là c'est aussi un peu du genre de l'influence, sauf que l'idée c'est de mettre l'accent sur le fait que parfois les démons peuvent opprimer quelqu'un par justement, je disais, l'angoisse, la peur. Alors voilà, vous avez tous, j'espère, déjà eu des cauchemars. On s'en sort bien, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais si vous faites des cauchemars toutes les nuits, que vous n'arrivez plus à dormir, que vos cauchemars vous retournent complètement les tripes, que vous voyez des trucs incroyables pendant vos cauchemars, ce genre de choses, il peut arriver que ce soit une oppression démoniaque. Je ne dis pas que c'est le cas toujours. Comme je dis, si ça arrive comme ça, ça arrive comme ça. Mais si maintenant, vous n'arrivez plus à dormir, que vous n'arrivez plus à avoir de paix dans votre cœur, parce que toutes les nuits, vous êtes tourmenté par des choses des visions, des choses que vous avez, là, ça peut être aussi ce genre de choses qui arrivent. Je dis ça aussi parce que vous pourriez très bien avoir envie de partager l'évangile à quelqu'un et puis vous rendre compte que la personne vous décrit ce genre de choses. C'est aussi important de pouvoir être au courant et se dire, il y a peut-être aussi un autre domaine. Je dis aussi, cet enseignement sur les démons, c'est aussi important, parce que si vous lisez aussi l'Évangile, vous voyez que c'est une part importante du ministère de Jésus. « Je suis venu pour délivrer les captifs », a-t-il dit. C'est une part de son ministère. Et Jésus confie à son Église la mission de poursuivre sa mission. Nous sommes le Christ sur terre, nous sommes le corps du Christ. Nous devons poursuivre la mission du Christ. Et donc, nous devons aussi être capables de dire, Seigneur, tu es venu pour délivrer les captifs. Je veux aussi pouvoir, moi, aider les captifs qui auraient autour de moi à être délivrés. Et je sais que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà vu des manifestations. J'ai déjà pu en parler, de manifestations démoniaques. Je sais que certains voient très bien ce que ça peut être. Alors, tant qu'on n'en a pas vu, on a l'impression que c'est de la blague. Mais c'est important de le savoir, parce que comme ça, le jour où ça arrive, on sait aussi de quoi il retourne. Alors, une remarque importante à ce propos-là, c'est quand même, et ça c'est quand même très important hein, de comprendre ça, c'est que la Bible, nous sommes des chrétiens qui croyons à l'autorité des Écritures. Donc la Bible doit faire autorité dans tout ce que nous croyons, dans tout ce que nous pensons, et nous ne devons pas avoir des convictions et des actions qui soient guidées par nous-mêmes, mais nous devons être guidés parce que la parole de Dieu nous enseigne. Okay ? Mais en même temps, la Bible ne nous dit pas tout. Ok ? La Bible ne dit pas tout ce qui peut exister, la Bible ne présente pas tous les scénarios possibles et imaginables, ce qui veut dire que l'expérience aussi des gens sur le terrain doit nous enseigner. Donc l'expérience des missionnaires, des pasteurs, des gens, des évangélistes qui sont sur le terrain doit nous enseigner. Vous comprenez l'idée ? Donc la Bible doit être la référence, on ne doit pas imaginer que c'est l'expérience qui dirige tout, mais on ne doit pas non plus se fermer à l'expérience, parce que la Bible ne présente pas tout ce qui se passe. Et la Bible nous dit ce qui est nécessaire, mais elle ne nous dit pas tout. Elle nous donne le cadre, elle nous dit comment nous devons agir, mais elle ne nous présente pas toutes les situations qui existent. Et pour ça, je peux donner un exemple, c'est qu'un pasteur qui est très actif dans le domaine de la délivrance expliquait qu'il a déjà observé des maisons qui sont habitées par des démons. Alors, il dit, il n'y a aucun verset biblique qui donne un exemple tel que celui-là. Donc, dans la Bible, vous n'allez pas trouver un endroit où on vous dit, voilà, il y avait une maison. Voilà. Mais lui, il dit, je l'ai constaté, je l'ai vu. Alors, on peut avoir une position carrée de dire, si la Bible ne le dit pas, c'est que ça n'existe pas. Mais il faut savoir que la conséquence, c'est que le jour où vous allez être confronté à la chose, vous ne saurez pas quoi faire. Donc, il était important de se dire aussi que c'est un domaine dans lequel l'expérience doit nous apprendre quelque chose. Et que si quelqu'un vient nous dire, voilà moi ce que je vois dans la maison, voici ce qui se passe dans ma maison, des trucs absolument incroyables et impensables, c'est important qu'on ne puisse pas lui répondre, ah ben moi j'ai lu ça nulle part dans la Bible, donc ça n'existe pas. Mais qu'on puisse au contraire dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça. Dans les milieux évangéliques, on a toujours les réponses à tout. On a toujours une doctrine pour tout, mais quand on nous amène quelqu'un qui a vraiment un problème, on ne sait pas quoi faire. Et je pense que ce n'est pas le but. On doit quand même être capable de pouvoir réagir à ce qui se passe concrètement sur le terrain. Je continue rapidement quelques minutes en disant qu'il y a d'autres actions des démons. On voit ici que des démons peuvent rendre muets dans Matthieu 9. On voit qu'ils peuvent rendre aveugles, on voit qu'ils peuvent rendre infirmes. Alors la Bible en même temps nous montre clairement qu'il n'y a pas de lien obligatoire entre les démons et la maladie, puisque par exemple dans Matthieu 4, 24, encore une fois vous voyez qu'on est au tout début des évangiles, sa renommée de Jésus se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Donc on voit que les démoniaques sont une catégorie à part. Donc il y a les malades, les lunatiques, les paralytiques et les démoniaques. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est démoniaque qu'on est malade, mais il peut arriver que la maladie soit en lien avec la présence d'un démon. Alors une autre action des démons, c'est aussi d'avoir la fonction d'idole, c'est-à-dire qu'ils peuvent remplir la fonction d'être des idoles que l'on adore. Et donc, particulièrement, on peut penser que dans certains entre guillemets religions dans lesquelles il y a des manifestations extraordinaires, hein, donc des trucs extraordinaires qui se passent, on peut penser que ce sont des démons qui sont à l'origine de ça et qu'ils poussent à un culte dévoyé, à un culte qui ne soit pas rendu à Dieu, mais qui soit rendu à autre chose. Donc, les démons ont la capacité d'accomplir des miracles, de faire des choses extraordinaires. Et donc, nous devons faire attention de ne pas croire que parce que quelque chose est miraculeux, ça a été opéré par Dieu, ça pourrait très bien être opéré par un esprit impur aussi. Les démons aussi, très important, parce que c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que vous voyez que ce n'est pas forcément des trucs extraordinaires. Les démons peuvent aussi inspirer des fausses doctrines. Et dans le monde chrétien aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de fausses doctrines qui sont là. Les démons peuvent aussi pousser des gens à développer des doctrines, à partager des doctrines qui ne sont pas fidèles à la Bible, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc les démons peuvent inspirer dans l'Église même des fausses doctrines, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de dévoyer les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils sont censés être enseignés, et donc ils écoutent ce qu'on leur enseigne. Donc il n'y a pas de meilleure façon pour les démons de dévoyer l'Église que de pousser des gens à répandre des faux enseignements. Et donc, vous voyez aussi que là, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Là, vous n'allez pas voir quelqu'un qui tombe par terre. Et pourtant, il peut y avoir un démon à l'œuvre dans ce genre de choses. Donc, les démons peuvent conduire des personnes ou des organisations à propager des fausses doctrines, des doctrines rétrogrades, idolâtres, mensongères. Et les faux enseignants, je ne parle pas des mauvais enseignants, je parle des faux enseignants, peuvent être des instruments du diable pour égarer les hommes, pour égarer l'Église. Donc, raison pour laquelle nous devons prier que Dieu nous guide par son esprit et qu'il chasse loin de nous tout esprit d'hérésie qui pourrait nous toucher. Mais aussi, les démons peuvent inspirer une mauvaise sagesse. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alors, on a vu aussi déjà que les démons peuvent avoir pour action s'opposer aux anges du Seigneur dans Daniel, où il est dit que Dieu dit à Daniel, dès que tu as commencé à prier, j'avais entendu ta prière, mais il y a un démon qui bloquait la réponse qui devait venir. Donc ça peut être aussi ça. Les démons agissent aussi dans le monde spirituel. Vous comprenez dès lors le verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre... Rien que ce verset-là justifie cet enseignement. Parce qu'on nous dit qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais on doit savoir contre quoi on doit lutter. Donc voilà. Donc ça veut dire que les blocages spirituels peuvent être causés par des démons, et parfois il faut pouvoir prendre autorité sur des démons qui agissent et qui bloquent, qui empêchent certaines choses de se faire dans le service de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Alors concrètement, pour terminer, les démons peuvent être à l'œuvre pour promouvoir l'idolâtrie, pour promouvoir les fausses religions et plus globalement pour promouvoir le rejet de Dieu. Ils vont faire tout ce qui est possible pour que les humains s'éloignent de Dieu, pour que les humains rejettent Dieu, pour que les humains se détournent de Dieu. Mais aussi, il faut se dire que les démons sont aussi impliqués dans tout ce qui favorise l'immoralité. On ne peut pas ne pas penser que des démons sont impliqués dans l'industrie pornographique, dans l'industrie pédopornographique, dans l'industrie des musiques sataniques. Je sais que ça peut paraître fou, mais il y a des satanistes dans le monde. Il y a des gens qui se rassemblent pour... Et les démons sont impliqués dans ce genre de choses. Il est difficile de penser que les démons ne sont pas impliqués dans les sectes occultes. Là aussi, donc là, ils favorisent, si vous voulez. Donc, ils peuvent favoriser l'immoralité au travers de différentes choses. Ils peuvent. Alors évidemment, ils vont pas le faire eux-mêmes. C'est pas eux qui vont aller mettre des choses sur Internet ou créer des musiques, mais ils vont pousser des gens. Je connais la chanteuse qui brûlait des Bibles. Comment elle s'appelle encore? Marilyn Manson ou comment? Ah oui, c'est un homme. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Donc, il brûlait des Bibles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses. Vous ne pouvez pas ne pas penser que la personne n'est pas influencée, au moins, par des esprits qui poussent ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est des choses très concrètes. Gloire à Dieu, nous, chrétiens, on s'éloigne de tout ça. Mais on ne peut pas ignorer que ça existe. Alors, les insanités, les meurtres aussi. Les démons aiment beaucoup la haine. Ils aiment beaucoup, et il y a même des gens qui pensent qu'ils peuvent être impliqués dans, des lobbies qui sont pour pro-armes. Vous avez, par exemple, aux États-Unis, voilà, il y a des gens qui pensent que ça peut aussi être des démons qui conduisent. Alors, c'est pas des gens en particulier, mais qui influencent, si vous voulez, les choses dans un certain sens pour que les armes se légalisent et pour favoriser des Jésus, rappelez-vous, en été, on a parlé du texte de Jean 10, où Jésus dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance », et il dit « Le voleur ne vient que pour dérober et pour détruire ». Il veut détruire des vies. Pour promouvoir la haine, c'est ce que je disais, c'est pour ça qu'on parle parfois d'esprit de dispute, hein, dans un groupe humain où tout va bien, et puis tout le monde se... Et parfois, il faut pouvoir les chasser, soutenir l'activité occultiste, diviser les groupes humains, conduire les hommes dans l'impureté, dans le péché, mais aussi, plus simplement, s'opposer aux enfants de Dieu dans leur cheminement spirituel. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. J'espère que ça a été à peu près clair. Mais surtout, le but n'est pas juste d'avoir des informations dans la tête. Le but, c'est que nous puissions marcher en suivant le Christ et en connaissant ce qu'il nous dit de la réalité, ce que Dieu nous dit de la vie, et qu'on puisse se positionner réellement comme enfant de Dieu dans notre vie au quotidien. Et que cet enseignement puisse nous y aider. Amen.